지용 톨스토이야. 미하일라. 챕터 1. Un savetier, logé avec sa femme et ses enfants chez un moudjik. Il n'avait ni maison, ni terre de rapport, et lui et sa famille vivaient de son travail de cordonnier. Le pain était cher, et bon marché l'ouvrage. Aussi, l'argent que lui valait son métier, il le mangeait. Le savetier et sa femme n'avaient eux deux qu'une seule fourrure, et encore était-elle usée, tout en loques. Et c'était déjà la seconde année qu'il se proposait d'acheter des peaux de mouton pour une nouvelle chouba. Vers l'automne, le savetier avait réuni quelque argent dans le coffre de sa femme. Il y avait un billet de 3 roubles, et encore 5 roubles et 25 kopecks lui étaient dus par les paysans dans les villages. Le savetier s'était enfin décidé à aller dès le matin au village pour sa chouba. Il a mis sa chemise, la veste en nankin doublée de ouate appartenant à sa femme, et par-dessus un caftan de drap. Il a empoché le billet de 3 roubles, s'est coupé un bâton, puis, après avoir déjeuné, il est parti. Il pense, je recevrai 5 roubles du moudjik, j'y ajouterai mes 3, j'achèterai des peaux de mouton pour ma chouba. Voilà le savetier dans le village. Il est entré chez un moudjik. Celui-ci n'est pas là. La femme du moudjik a promis d'envoyer dans le courant de la semaine son mari avec l'argent. Mais d'argent, point. Le savetier est entré chez un autre moudjik. Celui-ci lui jure sur Dieu qu'il n'a pas d'argent, si ce n'est 20 kopecks qu'il lui donne pour le raccommodage de ses bottes. Le savetier pense bien à prendre les peaux de mouton sans payer, mais le marchand ne fait pas crédit. « Apporte de l'argent, dit-il, puis fais ton choix, car nous savons comment on vit à crédit. » Ainsi, le savetier n'a conclu aucune affaire. Il a seulement reçu 20 kopecks pour son raccommodage et a pris les vieilles bottes de feutre pour leur coudre des pièces de peau. Pour noyer sa peine, le savetier a dépensé les 20 kopecks à boire de l'eau de vie et s'en retourne sans chouba vers la maison. Au matin, le temps lui avait semblé très froid, mais maintenant qu'il a bu, il a chaud, même sans chouba. Le savetier suit son chemin. D'une main, il frappe le sol gelé avec son bâton. De l'autre, il balance les bottes de feutre et se parlant à lui-même. « Moi, dit-il, même sans chouba, j'ai chaud. J'ai pris un petit verre et cela joue dans toutes mes veines. » Je n'ai pas besoin de touloupe. Je vais, j'ai oublié le souci. Voici quel homme je suis. Je continuerai à vivre sans chouba. Avant longtemps, je n'en aurai pas besoin. Une chose seulement. Ma femme sera triste. Aussi, c'est vexant. Je travaille pour Trifono et il me berne. Attends un peu. Si tu ne m'apportes pas d'argent, je t'ôterai le bonnet, par Dieu. Et cela, qu'est-ce que c'est? Il donne toujours 2 griven. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 2 griven? « Boire, c'est tout. » Il me dit. « J'en ai besoin. Toi, tu en as besoin. Et moi, pas peut-être. Tu as une maison, du bétail, et tout. Et moi, me voici. Toi, tu as ton pain, et moi, je l'achète. Prends l'argent où tu peux, mais donne-moi 3 roubles par semaine pour du pain. J'arrive à la maison, le pain est fini. De nouveau, il faut donner 1,5 roubles. Donne-moi donc mon dû. » Le savetier s'approche d'une chapelle bâtie à un coude de la route. Il regarde et voit juste derrière la chapelle quelque chose de blanc. Le crépuscule commence déjà à tomber. Et bien qu'il regarde, il ne peut pas distinguer ce que c'est. Une pierre, pense-t-il. Il n'y en avait pas ici. Une bête? Cela ne ressemble pas à une bête. D'après la tête, on dirait un homme, mais c'est un peu trop blanc. Et pourquoi y aurait-il un homme ici? Il est tout près, la chose est visible. Quel miracle! En vérité, c'est un homme, vivant ou mort, tout nu. Il est adossé à la chapelle et ne bouge pas. Cela fait terriblement peur au savetier. Il pense en lui-même. On a tué cet homme. On l'a déshabillé et jeté là. Approche-toi donc, et après tu ne pourras plus t'en débarrasser. Se disant, le savetier a passé son chemin. Il a tourné le coin de la chapelle et ne voit plus l'homme. Il a dépassé la chapelle lorsqu'en se tournant, il voit que l'homme s'est appuyé contre le mur. Il s'agite comme s'il cherchait à distinguer quelque chose. Le savetier a encore plus peur et réfléchit. M'approcher ou passer outre? M'approcher? Et si cela tourne mal? Qui sait qui est cet homme? Qui le connaît? Ce n'est pas pour une bonne action qu'il est tombé là. Si tu t'approches, Il te sautera dessus et t'étranglera. Et s'il ne t'étrangle pas, aie donc affaire à telle engeance. Que faire de lui, de cet homme nu? On ne peut sauter son dernier vêtement et le lui donner. Que Dieu me tire de là. » Et le savetier a hâté le pas. Il a recommencé à s'éloigner de la chapelle. Mais en lui, sa conscience murmure. « Que fais-tu, Sémène ?» se dit-il. « L'homme meurt dans le besoin. Et toi, tu prends peur et passes devant lui. Es-tu devenu si riche? As-tu peur qu'on te vole tes richesses? Ah, Sémène, ce n'est pas bien. » Chapitre 2. Sémène se retourne et s'approche de l'homme. Il voit un homme jeune, dans la force de l'âge, et n'aperçoit pas de traces de coups sur son corps. On voit seulement qu'il a froid et qu'il est effrayé. Il est assis, il s'appuie toujours et ne regarde pas Sémène. Il est très faible et ne peut pas lever les yeux. Sémène s'approche davantage, et tout d'un coup, l'homme a repris connaissance. Il a tourné la tête, ouvert les yeux et regardé Sémène. Et par ce regard, l'homme lui plaît. Sémène a jeté par terre les feutres, a défait sa ceinture et l'a mis sur les bottes. Puis, il a ôté son caftan. « Assez causé, dit-il. Mets ces habits, veux-tu ? Allons. » Il a pris l'homme par le coude pour l'aider à se relever. L'homme relevé, Sémène voit un corps frêle, propre. Ni les mains, ni les pieds ne sont meurtris. Et la figure est très avenante. Sémène lui a mis le caftan sur les épaules. Il n'a pu mettre les manches, et Sémène l'aide à passer les bras. Il lui croise le caftan et lui met la ceinture. Sémène a ôté de sa tête son bonnet déchiré. Il a voulu le mettre à l'homme nu. Mais il a eu froid à la tête. « J'ai toute la tête chauve, pense-t-il, et lui, sur les tempes, a de longues boucles. » Et il remet le bonnet. Mieux vaut lui donner les bottes. Il a assis et le chausse avec les bottes de feutre. « Les bottes mises ?»« Allons, frère, lui dit-il. Allons, réchauffe-toi et marche, et toutes ces affaires, on les débrouillera sans nous. »« Peux-tu marcher ?» L'homme regarde affectueusement Sémène, mais ne peut articuler un son. « Quoi, tu ne parles pas ? Nous n'allons pas passer l'hiver ici. »« Allons, il faut rentrer. Tiens mon bâton, appuie-toi si tu es faible, remue-toi. » Et l'homme se mit en marche, et il allait légèrement sans demeurer en arrière. Il suivait la route, et Sémène dit. « Dis donc, à qui es-tu ? » « Je ne suis pas d'ici. » « Ceux d'ici, je les connais. Comment cela s'est-il fait que tu sois près de la chapelle ?»«
Je ne peux pas le dire. »«
Probablement, des hommes t'ont fait du mal. » ?»«
Personne ne m'a blessé.
Dieu m'a puni. » »« C'est sûr, tout vient de Dieu. » »« Mais pourtant, où que cela soit, il te faut aller quelque part. » « Où est-ce que tu vas ?»«
Cela m'est égal. »
Sémène s'étonne. L'inconnu n'a pas l'air d'un méchant homme, et son langage est doux. Mais il ne dit rien de lui-même. « Il y a tant et tant de choses qui arrivent, » pense Sémène. Et il dit à l'homme, « Dis donc, viens dans ma maison, peu à peu, tu te remettras. »
Sémène marche, l'étranger ne le quitte pas d'une semelle, et ils marchent ensemble. Le vent se lève, et il s'engouffre dans la chemise de Sémène. Et cela commence à dégriser Sémène, et aussi à lui donner froid.
Il marche, il souffle avec son nez, et se couvre avec la couroutchouka de sa femme. Il pense, « En voilà une chouba. Je suis allé chercher une chouba, et je retourne sans caftan. Et encore, j'amène avec moi un homme nu. Matrena ne va pas me remercier. » Et en pensant à Matrena, Sémène devient triste. Et lorsqu'en regardant l'étranger, il se souvient de son regard derrière la chapelle. Son cœur bat dans la poitrine.
Thank you.
Chapitre 3. De très bonne heure, la femme de Semen a fini son ménage. Elle a coupé du menu bois, apporté de l'eau, nourri les enfants, et elle-même a un peu mangé. Elle est toute pensive. Quand mettre les pains? Aujourd'hui ou demain? Un grand crouton et tout ce qui reste. Elle pense. Si Semen a dîné là-bas, il ne mangera pas beaucoup à souper. Il restera encore du pain pour demain. Elle tourne et retourne le crouton et se dit. Je ne mettrai pas les pains aujourd'hui. Il ne me reste de la farine que pour les pains. Nous pourrons tirer jusqu'à vendredi. Matrena a rangé le pain et s'est assise près de la table pour coudre une pièce à la chemise de son mari. En cousant, Matrena pense à Semen et comment il achètera les peaux de mouton pour sa chouba. Pourvu que le marchand ne le trompe pas. Il est trop simple, mon homme. Il n'est capable de tromper personne et un enfant se joue de lui. 8 roubles, ce n'est pas peu d'argent. On peut avoir une bonne chouba. Comme nous avons été dénués l'hiver dernier, sans chouba. Je ne pouvais aller nulle part, pas même laver à la rivière. Maintenant, il est parti. Il a tout mis sur lui, et je n'ai rien à me mettre. Il n'est pas parti de bonne heure. Il serait temps. Pourvu qu'il ne soit pas allé boire, mon petit faucon.
Matrena était encore perdue dans ses pensées, quand elle entendit des bruits de pas sur le perron. Puis, quelqu'un est entré. Alors, Matrena pique son aiguille dans son ouvrage, et sort dans le vestibule. Elle voit 2 hommes qui sont entrés. Semen, et avec lui, un moudjik inconnu, sans bonnet et en bottes de feutre. Tout de suite, Matrena a senti que son mari a bu. « Allons bon, pense-t-elle. Il est ivre. » Mais lorsqu'elle vit qu'il était sans caftan, seulement en couroutchouka, et qu'il n'apportait rien et se taisait, Matrena sentit son cœur battre dans la poitrine. « Il a bu l'argent, pense-t-elle. Il l'a bu, avec quelques vagabonds. Et ici, il l'amène encore. » Matrena les laisse entrer dans l'isba, entre elles-mêmes, et voit un homme étranger, jeune, maigre, avec leur propre caftan sur le dos. Il n'a pas de chemise sous le caftan et pas de bonnet. Depuis qu'il est entré, il reste sans bouger et ne lève pas les yeux. Et Matrena pense. Ce n'est pas un honnête homme, il a peur. La voilà devenue toute triste. Elle s'approche du poêle et regarde les 2 hommes. Semen a ôté son bonnet et s'est assis sur le banc, comme un brave homme. « Eh bien, dit-il, Matrena, prépare-nous à souper, veux-tu » Matrena a maugréé quelque chose sous son nez, mais restée près du poêle, elle ne bouge pas, et en secouant la tête, elle regarde, tantôt l'un, tantôt l'autre. Semen sent bien que la femme n'est pas de bonne humeur, mais à cela, il n'y a rien à faire. Il fait semblant de ne pas s'en apercevoir, et prenant l'étranger par la main, « Assieds-toi, frère, nous allons souper. » L'étranger s'est assis sur le banc. « Quoi donc, tu n'as rien de prêt ?» Matrena commence à se fâcher.
« Si, j'ai préparé, mais pas pour toi. Tu as bu ton esprit dans le vin, je le vois. Tu es parti pour une chouba, et tu rentres sans caftan. Et encore, tu ramènes le premier vagabond nu que tu rencontres. Je n'ai pas de souper pour vous, ivrogne. » « Assez, Matrena. Pourquoi agiter ainsi ta langue sans raison ? Demande donc d'abord qui est cet homme. »
« Toi, dis-moi d'abord où est l'argent. »
Semen fouille dans le caftan, en retire le billet de 3 roubles et le déplie.
« Voici l'argent. Trifono n'a rien rendu. Il a promis pour demain. »
Matrena se fâche davantage.
Il n'a pas acheté de chouba, et son dernier caftan, il l'a mis sur cet homme nu, qu'il ne connaît pas, et qu'il amène avec lui.
Elle prend le billet sur la table et l'emporte pour le cacher. Toute seule, elle se dit.
« Je n'ai pas de souper pour eux. Je ne peux pas me mettre à nourrir tous les ivrognes nus. »
Et Matrena, tiens ta langue.
Attends, écoute ce qu'on te dit d'abord.
J'écouterai l'esprit d'un imbécile ivre? J'avais raison de ne pas vouloir t'épouser, ivrogne. Ma mère m'a donné des pièces de toile. Tu les as bues. Tu es allé acheter une chouba. Tu l'as bu.
Semen veut expliquer à sa femme qu'il n'a bu que 20 kopecks. Il veut lui dire où il a trouvé l'homme. Matrena ne lui laisse pas passer un mot. Comment fait-elle? Elle va par 2 mois à la fois, et elle se met à rappeler des choses passées depuis plus de 10 ans, pour lui en faire le reproche. Elle parle, puis enfin, sautant sur Semen, elle le prend par la manche.
« Donne-moi mon vêtement, il ne nous en reste qu'un seul, et tu me l'as pris pour le mettre. Donne-le-moi, belle figure tachée de son, chien, et que l'apoplexie te frappe. »
En tirant sur le vêtement, Matrena fait craquer les coutures. Semen finit par lui donner, et elle fait mine de partir. mais avant de franchir la porte, elles font en larmes.
Chapitre 4.
Matrena s'est arrêtée. Elle dit : si c'était un brave homme, il ne serait pas ainsi nu, et il n'a pas même de chemise sur lui. Et toi, si tu étais parti pour une bonne action, tu pourrais me dire d'où tu as mené un tel élégant. Mais je te l'ai dit, je marchais, et cet homme se trouvait près de la chapelle, déshabillé et tout engourdi de froid. Ce n'est pas l'été ? Éternue donc. Dieu m'a mené vers lui. Sans moi, il serait perdu. Eh bien, quoi faire? Ceci n'arrive pas tous les jours. Je l'ai pris, habillé, puis amené ici. Allons, calme ton cœur. C'est un péché, la colère. Pense à la mort. Matrena encore a voulu se fâcher, mais elle a regardé l'étranger et s'est tue. L'étranger est resté assis sur le coin du banc, sans bouger, les mains croisées sur les genoux, la tête penchée sur la poitrine. Il ne lève pas les yeux, et son front est tout plissé, comme si quelque chose l'oppressait. Matrena s'est tue, et s'est même dit. Matrena, n'as-tu pas de Dieu ? Matrena entend cette parole. Elle regarde l'étranger, et son cœur tout d'un coup s'est calmé. Elle quitte la porte, et s'avance vers le coin du poêle, et prépare à souper. Elle met les tasses sur la table, verse le kvass, et pose le dernier crouton de pain. Elle donne les couteaux et les cuillères. Allons, mange la soupe, dit-elle. Semen fait signe à l'étranger de s'approcher. Passe, jeune homme. Semen a coupé du pain. Il l'a trempé et il se met à souper. Matrena, assise au coin de la table, s'accoude sur sa main et regarde l'étranger. Il lui fait peine, ce pauvre homme, et elle se sent pleine de commisération pour lui. Aussi, l'étranger devient-il plus gai. Son front n'est plus plissé. Ayant regardé Matrena, il se met à sourire. Le souper terminé, Matrena desserre la table et se met à interroger l'étranger. « À qui es-tu ? Qui es-tu ? » « Je ne suis pas d'ici. »« Comment t'es-tu trouvé sur la route ?» Il ne m'est pas permis de le dire. « Qui t'a dévalisé ?» C'est Dieu qui m'a puni. « Pourquoi étais-tu tout nu contre cette chapelle ?» Je restais tout nu. Je commençais à geler. Semen m'a aperçu. Il a eu pitié de moi, a ôté son caftan pour me le donner. Il a insisté pour que je vienne ici. « Ici, tu m'as nourri. » Tu as étanché ma soif et tu m'as plaint. Que le Seigneur vous soit en aide. Matrena se lève. Près de la fenêtre, elle prend la vieille chemise qu'elle raccommodait et la donne à l'étranger. Elle a aussi trouvé des caleçons et les lui a donnés. Prends, je vois que tu n'as pas même de chemise. Habille-toi, puis couche-toi où cela te plaira, dans la soupente ou sur le poêle. L'étranger a ôté son caftan, mis la chemise et les caleçons et s'est couché. Matrena a soufflé la chandelle. Prit le caftan et s'est couchée près de son mari. Elle s'est couverte avec le pan du caftan. Elle est couchée, mais ne dort pas. L'étranger, tout le temps, ne quitte pas sa pensée. Quand elle se rappelle qu'il a mangé le dernier crouton et que pour demain, il n'y a plus de pain, quand elle se rappelle qu'elle a aussi donné la chemise et les caleçons, elle devient si triste. Mais lorsqu'elle se souvient comment il a souri, son cœur se met à battre plus fort. Longtemps, Matrena ne peut pas s'endormir. Et elle voit que Semen non plus ne dort pas. Semen ?
Quoi ?
Nous avons mangé le dernier pain, et je n'en ai pas d'autre. Que ferons-nous demain ? Ne dois-je pas demander à Commère Malani de m'en prêter ?
Laisse donc, nous serons en vie, et nous aurons de quoi manger.
La femme s'est tue.
Puis ?
Et c'est un brave homme, ça se voit. Seulement, pourquoi ne veut-il pas nous parler de lui ?
C'est que probablement il ne peut pas.
Semen ?
Quoi ?
Nous donnons, nous. Et pourquoi est-ce que personne ne nous donne rien, à nous ?
Semen ne sait que répondre. Assez causé, conclut-il. Puis se tournant vers le mur, il s'endormit. Chapitre 5. Au matin, Semen s'est éveillé. Les enfants dorment encore. La femme est partie chez la voisine, emprunter du pain. L'étranger est seul, vêtu de sa vieille chemise,
avec des caleçons aux jambes,
et assis sur le banc. Il regarde le plafond, et sa figure, si sombre hier, s'est éclairée. Semen lui dit « Quoi donc, l'estomac demande du pain et le corps nu des habits. Il faut te nourrir, et pour cela, que sais-tu faire ?»«
Je ne sais rien. »
Cela étonne Semen. « Avec de la bonne volonté, dit-il, un homme peut tout apprendre. » »«
Les hommes travaillent, et je travaillerai. »«
Comment t'appelle-t-on ? » ?»«
Mikhaël. » »«
Quoi donc, Mikhaël ? Tu ne veux rien dire de toi ?»«
C'est ton affaire, mais il faut te nourrir. Tu travailleras. »
Je te montrerai comment faire, et je te nourrirai.
Que le Seigneur te sauve, et moi, j'apprendrai. Montre-moi ce qu'il faut que je fasse. Semen prit du chanvre qui n'était pas tourné, l'enroula autour de ses doigts, et se mit à préparer son fil. Ouvrage pas difficile. Regarde. Mikhaël a regardé. Il a pris du chanvre sur ses doigts, et tout de suite, il a appris, et en a fait un bout. Semen lui montre comment cirer le fil, et du premier coup, Mikhaël l'a imité. Il lui montre comment le lier pour l'arrêter, comment piquer le cuir, et du premier coup, Mikhaël a tout saisi. Quel que soit le travail que lui montre Semen, il le comprend tout de suite, et dès le troisième jour, il se met à travailler, comme s'il n'avait jamais fait que coudre toute sa vie. Il ne quitte pas son ouvrage un instant. Il mange très peu. N'a-t-il pas d'ouvrage ? Il reste silencieux, et lève les yeux au ciel. Il ne sort jamais dans la rue, ne parle jamais trop, et jamais non plus, on ne l'entend plaisanter. Une fois seulement, on l'a vu sourire, le premier soir, lorsque la femme lui a servi à souper.
Chapitre 6. Jour après jour, semaine après semaine, une année s'est écoulée. Mikhaël vit toujours chez Semen, et comme par le passé, il travaille. Et l'ouvrier de Semen s'est acquis une vraie réputation. Personne, dit-on à la ronde, ne cousit si solidement et si joliment des bottes que l'ouvrier de Semen, Mikhaël. Et des alentours, on vient se commander des bottes chez Semen, dont l'état va prospérant tous les jours. C'est l'hiver. Semen et Mikhaël sont tous deux à travailler. Un traîneau à trois chevaux, faisant un tinabulé des sonnettes, s'approche de l'isba. Il regarde par la fenêtre. Le traîneau s'arrête devant l'isba. Un garçon a sauté du siège et a ouvert la portière. Un barine, enveloppé de fourrure, sort du traîneau. Il s'avance vers la demeure de Semen et monte le perron. Matrena s'est précipitée. Elle a ouvert la porte, toute grande. Le barine s'est incliné et entre dans l'isba. Il se redresse et touche presque le plafond avec sa tête. Il est si gras qu'il occupe tout un coin de la chambre. Semen s'est levé, s'est incliné et regarde avec admiration le barine. Jamais il n'a vu un tel personnage. Semen n'est pas gros. Mikhaël est maigre. Et quant à Matrena, elle est sèche comme un sarment, et cet homme a l'air dans leur maison de venir d'un autre monde. Museau rouge, bouffi, le cou d'un taureau, et l'air d'être coulé tout entier en fonte. Le barine a soufflé, il a ôté sa fourrure, et après s'être assis sur le banc, il dit
« Quel êtes-vous de le maître savetier ?»
Semen s'avance et dit « Moi, votre seigneurie. » Le barine appelle son domestique
« Et Fedja, donne ici la marchandise. »
Le garçon accourt, apportant le ballot. Le barine prend le paquet, le met sur la table.
« Ouvre-le »
dit-il. Le garçon l'a défait. Le barine touche du doigt le cuir et s'adressant à Semen.
« Écoute, savetier, tu vois cette marchandise ?»
Semen tâte le cuir et dit « Bonne marchandise.
»« Ha ha, Bonne marchandise. Toi, imbécile, tu n'en as jamais vu de la marchandise aussi belle que cela. C'est du cuir allemand qui a coûté 20 roubles.
Semaine prend peur et dit. Où donc en aurions-nous vu?
Ah ah, donc. Veux-tu, avec ce cuir, me faire des bottes?
On peut, votre seigneurie. Le barine se met à crier.
Tata, on peut. Toi, tâche de comprendre pourquoi tu couds, et quelle marchandise.
Couds-moi des bottes que je puisse porter une année, sans qu'elles se tournent, sans qu'elles se décousent.
Le peux-tu?
Prends. Coupe ce cuir. Et si tu ne peux pas, ne prends pas, et ne coupe pas la marchandise. Je te le dis d'avance. Si les bottes se décousent avant l'année révolue, je te mettrai en prison. Si jusqu'à l'année prochaine, elles ne se décousent pas, et si elles ne tournent pas, je te donnerai 10 roubles pour ton travail.
Semaine est effrayé. Il ne sait que dire. Il tourne son regard vers Mireille. Il la pousse du coude et chuchote. Faut-il prendre?
Mireille opine de la tête.
Prends le travail.
Semaine obéit à Mireille et s'engage à coudre les bottes qui ne tournent et ne se décousent pas d'une année.
Le barine a rappelé son domestique et se fait ôter la botte du pied gauche. Il a tendu le pied. Prends mesure.
Semaine a pris un papier de 10 pouces de long, l'a plié, s'est agenouillé. Il a bien essuyé ses mains à son tablier pour ne pas salir le bas du seigneur et commence à prendre mesure.
Semaine a mesuré la semelle, a mesuré le tour du pied et veut mesurer le mollet, mais le papier est trop court. Le mollet est gros comme une poutre.
Fais attention, ne fais pas la tige trop étroite.
Semaine a cousu un bout de papier à sa mesure.
Le barine, assis sur un escabeau, remue ses doigts de pied dans son bas. Il regarde les gens de l'isba et apercevant Mireille.
Tiens, qui est chez toi?
Lui, c'est mon ouvrier. C'est lui qui coudra.
Regarde, dit le barine à Mireille.
Et rappelle-toi, coule-les de sorte que je les porte 1 an.
Semaine aussi s'est tournée vers Mireille et voit que Mireille ne regarde pas le barine, mais fixe quelque chose dans le coin, derrière le barine.
Mireille regarde, regarde. Et tout d'un coup, se met à sourire, et sa figure s'éclaire.
« Toi, imbécile, pourquoi montres-tu tes dents? Regarde mieux, et dis-moi quel jour elles seront prêtes. »
Et Mireille, elles seront prêtes juste le jour qu'il faudra.
Le barine remet sa botte, puis sa fourrure qu'il croit sur lui, et s'achemine vers la porte. Il a oublié de se baisser, et se frappe la tête contre la poutre. Le barine se fâche, et frotte sa tête. Il est enfin remonté dans son traîneau, et repart.
Le barine est parti, et Semaine dit. Il est comme un roc, cet homme-là. On ne peut pas le tuer. Il a fait tomber tout un coin du plafond avec sa tête. Et il n'a pas de mal. Et Matrena ajoute.
Avec la vie qu'il a, comment ne serait-il pas ainsi? Il se porte si bien que même la mort ne peut pas le prendre.